Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, vous pourrez, comme tous les vendredis, commenter l'actualité de votre choix. C'est la libre antenne. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Vous êtes nombreux d'ailleurs à souhaiter réagir au procès Hissène Habré qui a repris lundi. Des réactions et des témoignages également sur la crise migratoire en Europe, la plus importante crise migratoire sur le continent européen depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, tous les sujets nous intéressent. Vous nous appelez, où que vous soyez à travers le monde, RFI vous donnera la parole. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Le procès Hissène Habré suscite également beaucoup de questions au standard. Chèque, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous appelez de Caille, vous êtes au Mali, l'ancien président tchadien qui est donc jugé pour crime contre l'humanité, pour torture et crime de guerre lorsqu'il était au pouvoir dans les années 80. Vous suivez ce procès comme beaucoup d'auditeurs et vous avez des questions.
Évidemment. D'abord, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Et mes questions sont les suivantes. J'aimerais savoir quelles sont les raisons qui poussent M. Habré à refuser de se présenter à son projet et à refuser de parler.
Alors, c'est vrai que la stratégie de l'ancien président est très claire. Il a opté pour le silence. C'est vrai qu'il ne reconnaît pas ce tribunal spécial, hein, les chambres africaines extraordinaires, créées spécialement pour ce procès par l'Union africaine. Bonjour Guillaume Thibault.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant des RFI à Dakar où se tient ce procès. Pourquoi Hissène Habré dit-il que cette cour est illégale et illégitime?
Eh bien, tout simplement, puisqu'il considère que toute la procédure qui a été menée contre lui a été menée à charge. Lundi, à l'ouverture, Hissène Habré a rappelé, s'est permis de couper le président de cette cour. Une cour, quelle cour, monsieur le président? Ce procès est illégal. Vous savez, Hissène Habré est réfugié au Sénégal depuis sa chute, le coup d'état d'Idriss Déby en 1990. Visible. Pensable qu'on le juge un jour, durant toutes les procédures, toutes les enquêtes. Souvenez-vous, il a été un temps question de le juger en Belgique. Hissène Habré a été soutenu et aidé par certains de ses pairs africains, notamment l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Ouad, et à chaque fois les procédures étaient cassées. Déclassé, la Cour internationale de justice a rendu un jugement qui obligeait le Sénégal à juger Hissène Habré. Il a alors commencé à critiquer cette décision. Le Sénégal a ensuite été obligé de mettre en place ses chambres africaines extraordinaires à la demande de l'Union africaine. Habré a immédiatement déclaré qu'elles étaient illégitimes. L'enquête a été menée durant 22 mois par un juge d'instruction. Hissène Habré a dit que toute la procédure était menée à charge et l'a répété à chaque convocation du juge, dès qu'un rapport le concernant était lu, dès qu'un témoin à charge était présenté. Un exemple, un historien est venu cette semaine, durant 6 heures à la barre, pour présenter un rapport historique sur les années Habré. Ce rapport a été lu au prévenu dans le bureau du juge pendant l'enquête. Habré a tout de suite dit au juge que l'auteur de ce rapport était un opposant notoire. L'auteur du rapport avait 6 ans lorsqu'Habré a pris le pouvoir, c'est ce qu'a noté le procureur à la barre. À l'ouverture du procès fin juillet, Hissène Habré a réitéré ses critiques bien évidemment vis-à-vis de la Cour. Non à l'impérialisme, non au colonialisme, avait crié le prévenu. Ses avocats avaient refusé, eux, de plaider avec les mêmes arguments, bien évidemment, cour illégitime, dossier d'accusation fait à charge. La Chambre a alors désigné d'office 3 avocats. Ils ont eu 45 jours pour plonger le dossier, c'est pour ça que le procès a repris ce lundi. Et le président a décidé d'être très ferme. Hissène Habré a réitéré une fois de plus ses critiques, mais les avocats commis d'office ont confirmé qu'ils le défendraient à la barre. La justice suit donc son cours.
Ouais, des avocats commis d'office qui vont le défendre, même si Hissène Habré refuse de les reconnaître et refuse de les rencontrer. Chèque, vous avez une autre question?
Oui. La deuxième est quels sont les moyens que les chambres extraordinaires africaines doivent employer pour aller au bout du projet?
Alors, comment aller jusqu'au bout du procès? Cette stratégie du silence va-t-il compliquer la tâche au juge de ce tribunal spécial? Guillaume Thibault, le silence, est-ce que c'est un problème ou pas?
Pas du tout. Dans le fond, c'est même un droit. Hissène Habré a le droit de se taire. C'est vrai que cela complique la procédure. Imaginez, lorsque le juge, lorsque le procureur, voire les avocats cherchent à interpeller le prévenu, Hissène Habré qui reste de marbre, ça complique justement cette donne. Cette semaine, il y a eu des moments importants. Il y avait un interrogatoire de personnalité. Hissène Habré a refusé de parler. Il y a eu aussi la lecture de l'acte d'accusation. Hissène Habré a refusé de réagir. Tout ça complique et énerve un petit peu, notamment le président du tribunal. Mais, par exemple, Jacqueline Moudéina, qui est l'une des avocates des victimes, voilà ce qu'elle a déclaré cette semaine. Hissène Habré entend, il n'est pas sourd, il voit, il n'est pas aveugle. Pour nous, le principal est qu'il soit là dans la salle d'audience. Les avocats commis d'office, qui défendent donc M. Habré, alors que M. Habré les récuse pour le moment, estiment au contraire qu'il faut respecter ce silence. Mais ils espèrent aussi une chose, c'est que le prévenu changera d'avis, car ils estiment que ce dossier, comme Habré, a été fait à charge et qu'il est donc défendable. Hissène Habré, il y a un point très important, il est là, il est devant les victimes, il est devant la cour et il sera là jusqu'à la fin. C'est le résultat d'une ordonnance qui a été prise lundi par le président de cette chambre à Fikren extraordinaire. Le prévenu a obligation de se présenter jusqu'à son verdict.
Voilà, exactement. Et s'il ne veut pas se présenter, eh bien, on risque d'assister Guillaume Thibault dans les prochaines semaines à la scène que vous avez vécue lundi à la reprise du procès. Hissène Habré, amené de force par des gendarmes devant les juges dans le box des accusés. Merci Guillaume Thibault. On suivra évidemment ce procès avec vous, correspondant permanent des RFI à Dakar, où vous êtes nombreux à nous écouter sur les 92 FM. Cheikh, bonne journée à Kaï, au Mali. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous accueillons Sylvestre. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Vous avez des questions concernant l'affaire des emails d'Hillary Clinton.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour, les auditeurs. Alors, Hillary Clinton et à la tête pour les prochaines élections américaines, l'affaire des emails déstabilise sa campagne.
Ouais.
La première question, pourquoi en parle-t-on? Y a-t-il un véritable danger pour les Américains?
Alors, pourquoi parle-t-on autant de cette affaire, une affaire qui vient plomber sa candidature, hein. On le voit dans les sondages, d'ailleurs les Républicains en profitent pour dénoncer le comportement de l'ancienne secrétaire d'État. Françoise Coste, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la politique américaine, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous venez d'ailleurs de publier, il y a quelques jours, un livre consacré à l'ancien président Ronald Reagan. Incontestablement, l'image d'Hillary Clinton ne cesse de se dégrader à cause de cette affaire. Déjà, en quelques mots, rappelez-nous ce qu'on lui reproche.
Alors, on lui reproche deux choses liées. D'abord, de ne pas avoir, une fois qu'elle a été nommée secrétaire d'État en janvier 2009 par Barack Obama, utilisé une adresse Internet officielle, qui est dans le cas des employés du département d'État, je crois que c'est statedepartment.gov.
Oui.
Comme moi, à l'université, j'ai une adresse professionnelle, univ.toulouse.gov.
D'accord.
2.fr, voilà.
D'accord.
Donc, non seulement elle n'a pas suivi ça, et en plus elle s'est créée, c'est pas qu'elle a utilisé une adresse Hotmail ou Anado ou AOL, c'est qu'elle s'est créée son propre serveur installé dans sa maison.
Elle l'a installé par ses propres moyens, c'est-à-dire qu'à aucun moment des spécialistes sont venus vérifier cette installation pour éviter tout risque de piratage.
Exactement, elle a recruté, payé des entrepreneurs privés qui ont installé un gros ordinateur et un gros serveur dans la maison des Clinton à Chappaqua, juste au nord de New York. Et effectivement, elle a fait ça de façon complètement isolée.
Ouais. Et isolée et un peu de façon irresponsable.
Alors c'est ça la question. c'est irresponsable, c'est flou, mais c'est ça ne semble pas être illégal. Voilà.
Alors, irresponsable parce qu'évidemment, en tant que chef de la diplomatie américaine, elle recevait et elle envoyait des documents sensibles, voire confidentiels à travers cette messagerie.
Mm-hmm. Oui. Et puis, elle avait, si j'ai bien compris, un seul technicien, si vous voulez, à demeure pour gérer le système. Alors que, vu, comme vous venez de le dire, le type de documents qu'elle recevait ou qu'elle envoyait, il aurait fallu beaucoup plus d'informaticiens pour protéger le système des hackers en particulier, ou d'autres agences de renseignement.
Ouais. Sylvestre nous demandait s'il y avait un véritable danger pour les États-Unis. Sait-on effectivement si elle a mis en danger l'Amérique ?
Alors, franchement, je pense que si c'était le cas, on ne le saurait pas de toute façon. C'est-à-dire que si elle avait vraiment fait fuiter, j'imagine, hein, les noms d'espions en Corée du Nord ou en Russie, et que ces espions avaient été tués par d'autres services de renseignement, les États-Unis ne l'admettraient pas publiquement. Pas juste pour la défendre elle, mais pour défendre leur crédibilité. Et ensuite, de toute façon, il semble que non. Franchement, ce qui est intéressant, c'est qu'à cause du scandale, elle a rendu public 30 000 emails déjà. Depuis le printemps dernier. Et régulièrement, le Congrès, qui a récupéré les mails, en publie. Alors bien entendu, c'est pas exhaustif. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc de lire les mails qu'elle envoie. Ouais. Et là, on se rend compte qu'ils sont d'une normalité confondante. Elle écrit à ses, c'est comme des emails de vous et moi. Elle écrit à sa fille, elle écrit à ses staffeurs pour leur demander ce soir j'aimerais regarder The Good Wife à la télé, à quelle heure ça passe.
Ouais. Enfin, donc si on comprend bien qu'elle n'utilisait pas donc cette messagerie pour envoyer des documents confidentiels, secrets.
Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment trouvé. Pas.
En tout cas, le FBI a ouvert une enquête. Le Congrès, vous en parliez, a même créé 3 commissions chargées de mener des enquêtes. D'ailleurs, Hillary Clinton devra s'expliquer devant ces commissions le mois prochain. Sylvestre, vous avez une autre question ?
Oui. Peut-il avoir une plainte contre Hillary Clinton ?
Alors.
La deuxième ?
Alors, peut-il y avoir une plainte contre Hillary Clinton ? Peut-elle être poursuivie par la justice américaine pour avoir commis une telle faute ?
Dans l'absolu, oui, mais j'ai pas l'impression qu'on s'approche, que c'est pas comme ça que ça va, cette histoire va se finir. Je pense que parce que par exemple, on lui reproche que à cause de ce serveur privé, de ne pas avoir fait archiver ses correspondances, oui. Ce qui est obligatoire.
Obligatoire, c'est prévu dans la loi américaine.
Ouais. Sauf que chaque fois qu'elle a écrit à ses collaborateurs qui, eux, avaient une adresse statedepartment.gov, eux, l'email reçu a été archivé par le biais de ses conseillers.
D'accord.
Donc, cette attaque ne fonctionne pas. Et ensuite, tant qu'il n'y a pas, et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'informations secret défense vraiment qui a été communiquée par cet email privé, on ne pourra pas
entamer des poursuites
judiciaires. Après, c'est autre chose par rapport à l'impact politique. Hein.
À suivre. En tout cas, voilà. On voit que dans les sondages, cette affaire lui fait du mal. Elle chute hein, dans les sondages. On aura l'occasion, évidemment, d'en parler. Françoise Coste, merci d'avoir été avec nous, maître de conférence à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Mais qui vois-je ? Olivier Pron, du service des sports.
Dites donc, monsieur Gomez.
Bonjour, Olivier Pron.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. On vous a demandé de venir, on a reçu une question sport. Et une fois n'est pas coutume, on va pas parler football.
Enfin, vous avez donné surtout beaucoup d'argent. C'est pour ça que je suis venu pour une fois. Parce que...
on va parler tennis. Et c'est surtout André qui s'intéresse à Raphaël Nadal. Bonjour, Raphaël. Ah, André, pardon,
allô ?
Excusez-moi. Bonjour, André.
Oui, bonjour, Juan.
Vous avez des questions sur Raphaël Nadal. Vous nous appelez d'Abidjan.
Oui, d'Abidjan, c'est ça. Oui. J'aimerais savoir pourquoi ce joueur exceptionnel perd-il autant dernièrement. Vraiment, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il a atteint les limites de son jeu physique et donc il ne peut plus rebondir? Voilà. Et puis, ou bien est-ce que c'est juste sa blessure de début de saison qui n'est pas bien remis? Auquel cas, n'est-il pas mieux pour lui de faire une pause ou d'arrêter simplement de jouer au tennis pour qu'on garde l'image de ce joueur exceptionnel avec des coups droits ravageurs qui pouvaient impossible, mais vraiment.
C'est vrai que pour certains, Raphaël Nadal, et peut-être pour vous, André, Nadal n'est plus que l'ombre de lui-même. Olivier Pron, Nadal éliminé il y a quelques jours de l'US Open au troisième tour. Ça fait mal.
Anus horribilis, comme aurait dit la reine d'Angleterre il y a quelques années. C'est vraiment une sale saison. Il en a connu d'autres. On le sait, c'est le propre du jeu de Rafael Nadal. Il a raison, André, depuis Abidjan. Sur le diagnostic, il est plutôt pas mal. Là où il se trompe, c'est que non, Nadal ne va pas arrêter. Il va même rejouer dans 15 jours. Il n'a plus joué en Coupe Davis pour l'Espagne depuis 2 ou 3 ans. Il va jouer un barrage Europe-Afrique pour éviter que l'Espagne ne descende en 3e division de la Coupe Davis. Il va jouer contre le Danemark mi-septembre. Donc non, sa saison n'est pas finie. Il a même annoncé qu'il espérait peut-être jouer le Masters, hein, le tournoi des maîtres, des 8 meilleurs joueurs du monde au mois de novembre. Il sera encore là. C'est une mauvaise année, on pouvait s'y attendre. Il a 29 ans seulement, mais on sait depuis quelques années qu'un jeu comme le sien demande très physique, demande tellement qu'à un moment le corps lâche. Et il a eu beaucoup de blessures ces derniers temps. Il a des saisons d'Annecy. Cette année est la pire depuis 10 ans. Hein. Il a même été 10e mondial. Il est remonté au 8e rang, mais il a été 10e cette saison.
Il n'a gagné que 3 tournois.
Et des petits tournois.
Si vous permettez.
Buenos Aires, ils vont être contents d'entendre ça. On manquera pas d'envoyer un peu de courrier pour dire ce que vous avez dit sur leur tournoi. Hambourg, pareil, les Allemands. Aucun, surtout, grand chelem depuis 10 ans. Il a été éliminé en quart de finale de son tournoi, Roland-Garros. Il a quand même gagné 9 fois là-bas.
Aucun grand chelem depuis 10 mois.
Aucun grand chelem depuis Roland-Garros l'an passé. Oui. Donc ça fait maintenant 14 mois. Aucun. Ça faisait 10 ans qu'il gagnait un grand chelem chaque année. Il en a gagné 14 en tout, dont 9 à Roland-Garros. Mais si vous regardez bien, depuis 2010, certes il a gagné 4 fois Roland-Garros, mais il n'a gagné qu'un seul autre grand chelem. Donc c'est vrai que Roland-Garros, c'est sa chasse gardée. Cette année, il est éliminé en quart de finale par Djokovic. Il avait été éliminé déjà, je suis en train de rechercher, au 3e tour, donc à l'US Open, au 2e tour à Wimbledon, en quart de finale. Il a même pas joué une demi-finale en Grand Chelem cette année. Seulement 3 titres remportés, 46 victoires pour 15 défaites. Voilà. Alors, il y a aussi une question de mental. Hein. Il le dit. Il dit que ça vient pas du physique, d'après ce qu'il dit. Moi, on est plusieurs à penser le contraire. Ça ne vient pas de la technique. Bon, la technique, elle est en place depuis longtemps chez lui. Il a simplement, effectivement, il y a eu des blessures. Et puis, mentalement, il a un peu lâché. Et quand vous avez le jeu de Rafael Nadal, il faut que tout ça soit au top. Sinon, ça marche plus.
Donc,
bien. Il ne fait plus peur.
Il ne fait plus peur. Et lui a perdu sa rage de vaincre.
Il a perdu un peu sa rage de vaincre. Certains disait ce serait peut-être bien qu'il change d'entraîneur. Ça ne sera pas le cas. Il a réaffirmé qu'il était avec la même structure depuis ses débuts.
Et son oncle,
voilà, Tony Nadal. Donc il reste. Et puis la famille s'est resserrée il y a quelques jours parce que le grand-père est mort. Et donc on a vu beaucoup d'images de cette famille très très unie. Donc non, il n'est pas question pour lui d'arrêter. Il veut encore gagner des grands chelems. On rappelle qu'il est à 14. On doute quand même qu'il puisse atteindre le niveau de Dieu Roger. Roger Federer, qui lui, au passage, disputera cette nuit sa 38e demi-finale de Grand Chelem. C'est quand même un cran au-dessus.
Ouais, mais Olivier Pron, rien ne vous échappe. Il y a 2 ans, on donnait Federer quasiment pour
il a 33 ans.
Mort sportivement. Et il a bien rebondi.
Oui, mais Federer, c'est complètement différent.
D'accord.
Il est fuselé comme un avion de chasse. Il est préparé. Les préparateurs physiques disent que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il a un jeu qui n'est pas du tout le même que celui de Rafael Nadal. Donc voilà, c'est totalement différent. Ce sont deux rivaux pour l'éternité, sans doute. Mais Rafael Nadal montre vraiment des signes inquiétants de faiblesse.
André, on a répondu à votre question ?
Oui, on a répondu, mais disons que je ne suis pas... Parce que pour moi, Nadal est le joueur, pour moi en tout cas, c'est le joueur le plus exceptionnel. Il est complet, grand défenseur, grand relanceur, vraiment...
Tout a une fin un jour.
Non, le joueur le plus complet et le plus grand joueur de l'histoire, c'est Roger Federer. Et Nadal a brillé à Roland-Garros. Il gagnera sans doute un 10e titre, on lui souhaite. Mais je pense que ça s'arrêtera là. Il a toujours été quand même un peu plus limité ailleurs. Et voilà, on espère retrouver les deux hommes. Tiens, au jeu, l'année prochaine, ce sera peut-être pour l'un comme pour l'autre la dernière grande compétition pour Federer en tout cas.
André, bonne journée à Abidjan. Merci de nous avoir appelé. Bonne journée, Olivier Pron. À bientôt.
Vous aussi.
Avant de rendre l'antenne et retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin. Deux rendez-vous importants la semaine prochaine. D'abord lundi, journée spéciale sur RFI. Nous modifierons nos programmes. Appel sur l'actualité et priorité santé vont s'associer pour une émission spéciale de 2 heures consacrée aux faux médicaments. Vous le savez certainement, chaque jour, des milliers de personnes mettent leur vie en danger en utilisant ces médicaments contrefaits qu'on retrouve notamment sur les marchés de rue en Afrique. À partir de lundi, une campagne internationale d'information sera donc lancé pour sensibiliser justement le grand public. RFI est partenaire de cette campagne et avec nos invités, nous répondrons à toutes vos questions. On attend d'ailleurs également vos témoignages. Dites-nous si vous-même, vous consommez et vous devez consommer, car vous ne pouvez pas faire autrement, de faux médicaments. 33 9 693 693 70, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et puis toujours la semaine prochaine, mercredi, journée spéciale en direct de la Fondation Cartier à l'occasion de la très belle exposition Beauté Congo dont RFI est partenaire. Et ce sera l'occasion, si vous le souhaitez également, de nous poser des questions sur l'art contemporain africain, sur sa vitalité et sur les artistes qui ont le vent en poupe. Reste avec nous.